Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du 30 avril 2024. Je vous donne les titres d'actualité. Toutes les voix sont utiles, surtout celles qui sont les moins entendues ou du moins que l'on veut faire taire. Je vous parlerai de Carole Brandicourt, porte-parole du collectif « Soulagée mais pas tuée ». Donc je vous lirai l'interview qu'elle a donnée au magazine « Ombre et Lumière » numéro 259. Nous avions parlé dans les revues de presse précédentes du « baby crack » ou de la chute démographique en France. Nous allons revenir sur ce sujet avec 8 questions posées à la journaliste Eugénie Bastier dans l'invisible numéro 150 sur le thème suivant « Avoir un enfant, pourquoi faire ?» Qui est cette femme italienne, Gemma Calabresi, qui a pardonné au meurtrier de son mari ? Ce sera le portrait d'aujourd'hui. Je vous lirai un témoignage très court en ligne sur Aletheia. Et en culture chrétienne, je vous présenterai le dernier livre de Yves Chiron paru aux éditions MAM, Exorciste, 20 siècles de lutte contre le diable. Nous commençons cette revue de presse avec le collectif Soulagé mais pas tué. Je vais vous lire l'interview de son porte-parole, Caroline Brandicourt, qui se projette justement sur les secousses à venir sur la fin de vie. L'interview est dans le magazine Ombre et Lumière, numéro 259. Quelles actions majeures a mené le collectif tout au long de ces 10 dernières années ? L'idée que l'on porte depuis le début, c'est de supprimer la souffrance et non pas les souffrants. Nous avons surtout axé notre action sur l'accès aux soins palliatifs pour tous. Les mobilisations ont pu exercer une influence assez forte sur les gouvernements, même s'il est toujours difficile de savoir à qui elle est due. Grâce à l'ensemble des voix qui se sont élevées en ce sens, l'intérêt des soins palliatifs est maintenant vraiment reconnu. Il y a 3 ans encore, on en parlait très peu. À l'heure actuelle, même si le gouvernement s'engage vers l'euthanasie et le suicide assisté, il reconnaît l'importance de développer les soins palliatifs et de lutter contre la douleur. Alors, quelle place accordez-vous au handicap dans ce combat ? Nous voulons lutter contre la mort sociale des personnes âgées et aussi des personnes handicapées, en faisant tout pour les rendre plus visibles. Notre branche, 100% vivant, dont je suis également porte-parole, veut faire entendre la voix des personnes handicapées. Ce n'est pas facile, car celle-ci est très peu mise en valeur. Et puis, il faut savoir que les personnes concernées, ou bien leurs proches, ont déjà tant à lutter à cause de leur maladie ou leur handicap qu'il leur est difficile de prendre la parole en public. Lors de mon défi, qui était en fait de parcourir 1000 km à travers la France à tricycle, le message diffusé était le suivant. La société a tout à gagner à miser sur les personnes fragiles. Celles-ci apportent une somme incroyable de toutes les valeurs d'humanité, d'attention à l'autre, de gratuité dont on a tant besoin actuellement. Ceux qui s'approchent des personnes handicapées découvrent des trésors de bienfaits. Si l'on éteint la voix des plus fragiles, on risque de perdre ce trésor. Et l'on ira droit vers une société encore plus individualiste qu'elle ne l'est actuellement. À soulager mais pas tuer, ce n'est pas de cette société dont on a envie. Alors quel impact a la prise de parole des personnes handicapées sur le collectif ? Au sein même du collectif, je me sens très écoutée, nous dit Caroline Brandicourt. À la suite du défi, j'ai par exemple été invitée par l'hôpital de Bourges au sein de l'unité des soins palliatifs lors des journées mondiales pour les soins palliatifs en question. Les médecins et soignants, devant lesquels j'ai donné une conférence, ont exprimé à quel point c'était important pour eux d'entendre la voix des malades. Je leur ai dit « Mais vous les côtoyez tous les jours, les malades ?» À quoi ils m'ont répondu « Tous n'osent pas parler ». Il y a une espèce de résignation implicite. Les personnes ne se sentent pas légitimes. Je voudrais le dire et le redire. Chacun est digne, quelles que soient ses difficultés physiques. Chacun est vraiment digne et a le droit de parler. Avez-vous alors un sentiment d'échec alors que la loi approuvant le suicide assisté et des exceptions d'euthanasie est sur le point d'être votée? Oui, évidemment, il y a une grande déception devant la loi qui arrive, qui suit la logique de l'évolution de notre société, mais cet échec n'est qu'apparent. J'ai vu récemment une image qui m'a beaucoup aidée. Un troupeau de bisons passait, la terre tremblait, les bêtes détruisaient tout sur leur passage. Mais à côté du troupeau, des insectes butinaient sur les fleurs et en faisaient leur miel. Nous devons composer avec ces bisons qui passent, mais à côté, nous pouvons continuer à vivre, à semer et à répandre le bien. Alors pour terminer, comment allez-vous rester mobilisé dans les prochains mois ? Le 10 avril dernier, nous avons porté à l'Élysée le résultat de l'appel de Philippe Pozzo di Borgo, ancien porte-parole du collectif, qui a rassemblé plus de 33 000 signatures. Personnes handicapées et aidants étaient présents pour déposer cet appel. Il reste aussi les sénateurs qui montrent leur opposition à la loi et surtout des soignants. Et même parmi les Français, la question n'est pas si claire comme on voudrait nous le faire croire. Lors du défi à travers la France, des gens de toutes sortes passaient sur mon stand. Très peu étaient fermement attachés à l'euthanasie. Dès lors que nous leur expliquions la portée des véritables soins palliatifs, ils trouvaient ça extraordinaire. Nous allons rester mobilisés, car si l'on commence à se taire, on ne sera plus du tout écouté. Toutes les voix sont utiles, surtout les moins entendues. C'était l'interview donnée à Caroline Brandicourt, porte-parole du collectif Soulagée mais pas tuée, qu'elle a donnée au magazine Ombre et Lumière, numéro 259. Nous poursuivons avec un autre sujet de société, donc à savoir maintenant les naissances. Nous venons de parler des personnes âgées et handicapées. Nous allons maintenant de nouveau approfondir le sujet d'avoir un enfant. Et pourquoi faire ? Voici donc 8 questions qui ont été adressées à la journaliste Eugénie Bastier, donc dans l'Invisible numéro 150. La première question remarque. Avoir un enfant, je n'y vois pas d'intérêt. C'est beaucoup de contraintes pour si peu de reconnaissance. Eugénie Bastier répond. Ce serait faux de dire qu'un enfant n'apporte pas de contraintes. Un enfant limite forcément une forme de liberté absolue. Une liberté individualiste conçue comme la maximisation des possibles. Un enfant nous rend responsables. Nous devons l'éduquer, y consacrer du temps. Mais en même temps, je n'appellerai pas ça un sacrifice, car le bonheur que nous apporte l'enfant et la transmission qu'est le fait de donner la vie compensent largement cette perte de liberté. Liberté dans le sens individualiste du terme. Aujourd'hui, un discours féministe fait passer l'émancipation des femmes par une maximisation du choix qui fait de la maternité une entrave, voire une aliénation. Fonder une famille, recevoir l'amour d'un enfant est quelque chose d'irremplaçable. Deuxième question. Moi, j'ai besoin de me sentir libre, de savoir que je peux profiter. Un enfant, ça oblige à te poser et à modifier tes plans, non ? Eugénie nous répond. Qu'est-ce que la liberté ? Est-ce celle d'être un adolescent permanent ? La liberté, ce n'est pas la liberté du consommateur dans le supermarché devant l'infinité des possibles. La vraie liberté, c'est la responsabilité. Le fait d'être parent, c'est accomplir cette responsabilité. Fonder une famille, avoir des enfants, nous rend paradoxalement plus libres, car nous vivons une sorte d'accomplissement de l'existence qui nous libère de beaucoup de frustrations, d'ambitions de performance que nous dicte la société. Fonder une famille résout les dilemmes de la liberté qui nous sont posés dans la modernité. Nous sommes à une époque qui n'a que la déconstruction à la bouche. Au contraire, la construction du couple, d'une famille, offre une liberté qui n'est pas volatile, mais solide. poser une fois pour toutes le choix d'avoir un enfant nous épargne de la tyrannie du choix permanent de notre société où tout est jetable. Troisième question. Un enfant peut quand même grandement perturber l'ambition professionnelle, surtout pour les femmes. Qu'en dites-vous ? Eugénie nous répond. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un discours qui veut mettre l'accent sur la carrière, la performance économique et qui dévalorise la vie domestique et la vie familiale. Nous vivons avec une vision très économique de la réussite. Or, la réussite peut être aussi familiale. Le décentrement que permet l'enfant est quelque chose qui permet de mettre de côté ce culte du moi qui impose une sorte d'introspection infinie à laquelle nous enjoint cette culture du développement personnel. Il y a une sorte d'équilibre qui se fait en existant pour l'autre. La vie prend tout son sens. On n'a plus besoin de se poser des questions telles que « Qu'est-ce que je dois faire de ma vie ?» Quatrième question. Un animal de compagnie, c'est quand même plus simple de s'en occuper. Pourquoi ne pas se contenter de cela ? Que nous répond Eugénie Bastier ? Votre chien ne s'occupera pas de vous quand vous serez vieux. Au-delà de la plaisanterie, parce qu'un enfant, c'est un être humain, donc un être libre, doté de langage et capable de rendre librement l'amour. Il y a un dialogue qui s'instaure avec lui. Il y a aussi la question de la lignée, de la transmission. L'enfant prolonge une transmission qui s'est faite de génération en génération. L'enfant est la génération que n'offre pas un animal. Cinquième question. Et la grossesse, l'accouchement, la fatigue des premiers mois, ce n'est pas du bonheur, c'est une épreuve. Réponse de Eugénie Bastier. Il ne s'agit pas de minimiser les souffrances postpartum, mais je pense qu'elles s'éclipsent assez vite face au bonheur d'être mère. Le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais autant parlé des souffrances de l'accouchement, alors qu'on n'a jamais aussi peu souffert de l'accouchement avec les progrès techniques. On essaie de faire peur avec la grossesse. Toutes les femmes depuis le début de l'humanité sont passées par là. Il peut y avoir des difficultés, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut dédramatiser et normaliser la grossesse et l'accouchement. La société hygiéniste dans laquelle nous vivons a tendance à faire de la grossesse une pathologie et nous offre un discours anxiogène, alors que c'est un moment merveilleux. Le congé maternité est un moment de pause dans la vie de la femme qui mène parfois une vie professionnelle trépidante. Ce congé permet de se connecter avec son enfant. Sixième question. Faire un enfant aujourd'hui, ça n'a aucun sens. La planète déborde d'habitants et la Terre sonne l'alarme. À quoi bon offrir ça à nos enfants ? À quoi bon sauver la planète, nous dit Eugénie Bastier, si ce n'est pas pour la peupler de nos enfants ? Les enfants sont le moteur de tout engagement politique et de tout engagement pour l'avenir. Si l'on se bat pour l'avenir de la planète et pour la beauté du monde, c'est parce qu'on veut que nos enfants vivent dans de bonnes conditions. Je ne me bats pas pour que la planète serve de décor aux vaches ou aux bêtes sauvages. Sans génération, le combat écologique n'a plus aucun sens. L'argument écologique est un argument pour faire des enfants et vice-versa. C'est parce qu'on a des enfants qu'on est écolo. Et on est écolo parce qu'on veut une meilleure planète pour nos enfants et l'avenir. Ce qui permet d'enchaîner sur la septième question. Mais ne sommes-nous pas trop nombreux ? Non. Nous ne sommes pas trop nombreux partout. Les sociétés occidentales sont des sociétés vieillissantes. Une société vieillissante est une société qui s'efface. Ces sociétés n'envisagent pas l'avenir de la même façon. Elles ne mettent plus les priorités aux mêmes endroits. L'Occident est en train de mourir culturellement et intellectuellement parce qu'il meurt démographiquement. Évidemment, on ne fait pas des enfants dans un but politique. Cela reste toujours un choix intime. Au niveau mondial, les choses sont différentes. Mais même l'Afrique est en train de faire sa transition. Certaines projections disent que la démographie mondiale va atteindre un pic à l'horizon de 2030-2040 pour connaître ensuite une forte baisse. Et pour la France et l'Europe, je m'inquiète d'un monde sans enfants. C'est un monde triste et mortifère. Et pour terminer, dernière question. Sur le plan social, c'est pareil. Peut-on croire en un avenir serein dans un contexte qui se détériore sans cesse ? Eugénie Bastier conclut avec la réponse suivante. L'avenir et le contexte dans l'histoire ont très peu joué dans le fait d'avoir des enfants. Quand vous regardez le taux de fécondité à Gaza, qui est de 6 enfants par femme, vous voyez que ce n'est pas la question des conditions économiques et socio-économiques qui joue primordialement dans le fait de concevoir des enfants. De même, le baby-boom en France commence en pleine Deuxième Guerre mondiale, en 1942, parce qu'il y a une soif de croire en l'avenir qui ne dépend pas que des conditions géopolitiques. Je pense au contraire que ce sont les sociétés les plus en paix, entre guillemets, mais aussi les plus consuméristes, les plus individualistes, les plus prospères, les plus obsédés par le confort matériel, qui sont celles où on ne fait plus d'enfants. C'était 8 questions posées à Eugénie Bastier dans l'invisible numéro 150 sur le thème suivant « Avoir un enfant, pourquoi faire ?» Nous passons maintenant au portrait d'aujourd'hui. Une femme, italienne, et pas n'importe laquelle, Gemma Calabresi, qui a pardonné aux assassins de son mari. Voici donc les grandes lignes de son témoignage, donc un témoignage que vous pourrez retrouver en ligne sur Aletheia. Durant les fortes tensions qu'a connues l'Italie dans les années 70, Gemma Calabresi, 25 ans, est confrontée à la perte tragique de son mari Luigi, commissaire de police à Milan. Malgré l'immense douleur, elle décide de suivre un chemin de pardon. Ce matin-là était un matin comme tous les autres, comme dans toutes les familles italiennes. J'avais préparé le café pour mon mari, nous l'avions bu ensemble, puis il est parti. Gemma Calabresi commence ainsi le récit du jour de l'assassinat de son mari Luigi, donc le 17 mai 1972. Gemma n'a que 25 ans et Luigi 34. Ils sont parents de 2 jeunes enfants et attendent leur troisième. Gemma est une femme joyeuse, qui aime danser. Elle est profondément amoureuse de son mari, avec qui elle partage sa vie depuis 4 ans, dans leur appartement situé à Milan. Ce matin-là, Luigi, jeune commissaire de police, doit se rendre au travail, comme à son habitude, mais avant qu'il ne monte dans sa voiture, on lui tire dans le dos. C'est le début d'une période très sombre en Italie, nommée les années de plomb. Plus de 50 ans se sont écoulés. Mais dans son livre en italien, La crepa e la luce, non traduit en français, Gemma Calabresi se souvient encore de cette journée avec précision. Après le départ de son mari, elle n'a pas entendu les coups de feu tirés juste devant sa maison. Mais elle se souvient que des voisins et des collègues sont venus lui dire que son mari avait été blessé et conduit à l'hôpital. Quand le prêtre qui les avait mariés, dont Sandro arrive à son tour, Gemma lui demande la vérité. Et sans émettre un son, il lui dit « Il est mort », avec un simple mouvement des lèvres. Gemma s'effondre sur le canapé, avec une douleur déchirante et un sentiment de vide. Rien n'avait plus de sens. Elle ne sait pas combien de temps s'est écoulé ainsi, plusieurs heures peut-être. Mais elle ressent soudainement une immense paix et une sérénité inexplicables. C'était comme si quelqu'un m'avait enveloppée dans ses bras. Et là, dans cette étreinte, j'ai compris que j'allais m'en sortir, que ma vie serait différente, mais que mes enfants et moi allions avancer, car je n'étais pas seule. Je suis convaincue qu'à cet instant, au plus bas de ma vie, dans ma solitude et mon désespoir, j'ai rencontré Dieu. Car Gemma était croyante par éducation et tradition. Mais ce jour-là, elle ressent la présence de Dieu d'une manière profondément différente. et toute sa foi se transforme. Remplie d'une sensation inconnue, elle fait alors un acte inexplicable. Moi, une jeune femme de 25 ans, dont le mari venait d'être assassiné, j'ai dit au père Sandro « Prions un Je vous salue Marie pour la famille de l'assassin, qui aura sûrement plus de douleur que la mienne. » Une force et une inspiration qui ne venaient pas d'elle, mais de plus haut. Comme pour lui montrer le chemin. Même l'annonce nécrologique qu'elle choisit pour la mort de son mari et qui est publiée dans Corriere della Sera, cette annonce dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Gemma, avec ses paroles d'amour, qui sont les dernières paroles de Jésus sur la croix, voulait dissiper l'atmosphère de haine qui les entourait depuis des années. Cependant, soyons réalistes, le chemin du pardon a été long et difficile. Elle nous dit en toute simplicité, « Parfois, je pensais être sur la bonne voie, puis je lisais un article de journal et je reculais. » Souvent, elle se surprend même à imaginer des scènes de vengeance. Pourtant, le souvenir de cette expérience, où elle s'est sentie aimée de Dieu, l'a accompagnée toute sa vie, surtout dans les moments de désespoir, de colère et de larmes. Elle nous dit encore « Je savais qu'en tant que chrétienne, je devais pardonner. Mais j'ai réalisé que le pardon ne se donne pas avec la tête. Il se donne avec le cœur, le silence et la prière. C'est un choix intérieur. J'ai compris aussi que je n'avais pas le droit de reléguer ces hommes à l'acte le plus terrible de leur vie. Un jour, pendant le procès, j'ai vu que les accusés étaient tendres avec leurs enfants. L'un d'eux les a serrés très fort dans ses bras. Cette scène, je l'ai gardée dans mon cœur. Chaque jour, Gemma prie pour les meurtriers de son mari, particulièrement lorsqu'elle s'approche de l'Eucharistie, demandant à Dieu de leur accorder la paix du cœur. Elle conclut en redisant « Le pardon est vraiment un choix intérieur. C'est difficile, mais c'est possible de continuer à aimer la vie, même après une douleur aussi déchirante. De croire en les autres, même après la trahison et la calomnie, et de changer son jugement, même sur ceux qui nous ont fait le plus mal. » C'était les grandes lignes du témoignage de Gemma Calabresi, femme italienne qui a pardonné aux assassins de son mari. Vous pourrez retrouver ce témoignage en ligne sur Aletheia. Nous passons maintenant à la culture chrétienne où je vais vous présenter les grandes lignes du dernier livre de Yves Chiron, intitulé « Exorciste, 20 siècles de lutte contre le diable » paru aux éditions MAM. La figure de l'exorciste intrigue toujours un très large public, bien au-delà du milieu catholique, au point que des dizaines de films ont mis en scène ce prêtre qui lutte contre le diable. Ces images spectaculaires ne sont pourtant le reflet fidèle ni de ce qu'il fait, ni de ce qu'il est. Qui sont les hommes derrière les clichés? Par quels moyens combattent-ils vraiment le malin? Ce livre propose un fascinant voyage dans le temps pour aller à la rencontre de quelques-uns des plus grands exorcistes de l'histoire de l'Église, du Christ lui-même, à Gabriel Amors, en passant entre autres par Saint-Martin de Tours, Henri Institoris et Jean-Joseph Surin, l'exorciste des possédés de Loudun. Si à travers cette galerie de portraits, fondée sur une large et rigoureuse documentation, se dessine l'évolution des représentations du diable et des rituels d'exorcisme, on découvre surtout des hommes de chair et de sang qui ont consacré leur vie à l'une des plus mystérieuses missions que le Christ ait confiée à ses disciples. Je vous laisserai donc découvrir ce livre donc de Yves Chiron, « Exorciste, 20 siècles de lutte contre le diable » paru aux éditions MAM. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Je vous redonne très rapidement les titres dont il a été question dans cette revue de presse du 30 avril 2024. Nous avons commencé avec le collectif Soulagé mais pas tué à travers une interview de son porte-parole, Carole Brandicourt, intitulée « toutes les voix sont utiles, surtout celles qui sont les moins entendues et que l'on veut faire taire. Une interview que vous pourrez retrouver dans le magazine Ombre et Lumière, numéro 259. Nous avons ensuite lu un débat à travers 8 questions posées à la journaliste Eugénie Bastier dans l'Invisible numéro 150 sur la grande question d'avoir un enfant et pourquoi faire. En portrait aujourd'hui, je vous ai présenté le témoignage de pardon de Gemma Calabresi, qui donc a pardonné au meurtrier de son mari, assassiné le 17 mai 1972. Le témoignage est en ligne sur Aletheia. Et en culture chrétienne, je viens de vous présenter à l'instant le dernier livre de Yves Chiron, « Exorciste, 20 siècles de lutte contre le diable », paru aux éditions MAM. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie mardi prochain.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la revue de presse que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.